Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure après l'émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons France Parkinson, Comité des Landes. Alors, ça va être une émission très intéressante. Et puis, on a beaucoup de monde dans le studio. Nous avons Valérie et Patrice, qui sont tous deux atteints par la maladie de Parkinson, ainsi que Marine, qui est neuropsychologue, et enfin Irondina, qui représente France Parkinson Landes. Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien.
Ça va bien, merci.
Bonjour. Très bien. Alors, on a un petit problème sur un des micros, vous allez constater, hein, chers auditeurs et auditrices, on n'entend que d'un côté. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bientôt, on a du nouveau matériel qui est en route et on aura des émissions de meilleure qualité, je vous le promets. On va passer donc une petite heure ensemble pour découvrir nos invités et puis on va parler de cette maladie qu'on croit connaître. Hein, vous allez voir que c'est certainement pas le cas. On va d'abord écouter le flash info national et international et ensuite on se retrouve pour la première partie de cette émission. C'est parti, donc nous retrouvons nos invités. Donc la première partie est souvent consacrée à la découverte justement de qui sont nos invités. Là, dans le cas présent, la trajectoire de chacun va être intéressante en fonction justement de la problématique qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Est-ce que Valérie veut bien se prêter à cet exercice, nous parler un petit peu d'elle ?
Oui, avec plaisir. Oui. Donc moi j'ai 53 ans aujourd'hui, mais les premiers symptômes de la maladie sont apparus quand j'avais 50 ans. Je venais juste 2 mois avant de créer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur après 2 ans de formation. Et puis j'ai commencé à avoir ce que j'ai appelé des sursauts d'un bras, de la dyskinésie en fait, que j'ai pris pour les symptômes que j'ai eus au départ, je les ai pris pour un déséquilibre de mon système nerveux lié à mon changement de vie.
D'accord.
En fait. Donc, j'ai pas prêté vraiment attention à cela. Et les symptômes se sont aggravés très rapidement. Et des nouveaux symptômes sont apparus au fur et à mesure depuis 3 ans, en fait.
D'accord. Et donc, vous avez consulté de suite ou pas ? Parce que bon...
J'ai consulté, j'ai eu mon rendez-vous à peu près 1 an après l'apparition des symptômes.
D'accord.
Enfin, des symptômes que j'ai reliés après à la maladie de Parkinson, mais que j'avais pas identifié au départ.
D'accord. Ouais. Bon. Voilà. Maintenant, ça a été diagnostiqué il y a combien de temps ?
Ça fait maintenant presque 3 ans.
D'accord.
Ouais.
Très bien. Bon, on va découvrir au fur et à mesure de l'émission cette maladie-là, puis comment ça se passe, comment vous le vivez avec cette chose. Voilà. Oui. On va discuter un petit peu avec Patrice aussi. Parlez-nous de vous, Patrice, si vous voulez bien.
Oui. Bonjour. Je m'appelle Patrice. J'ai 54 ans. Donc j'habitais pendant 7 ans et demi dans les Bouches-du-Rhône. J'avais un métier dans la sécurité de haut de gamme. Donc j'ai dû quitter le métier car on m'a diagnostiqué à peu près 3 ans la maladie de Parkinson. Et du coup, j'étais très fatigué. Et comme c'est un travail qu'il faut être à 200%, donc j'ai dû arrêter le métier. Et du coup, maintenant, je suis rentré dans les Landes car j'ai habité très longtemps dans les Landes. Je suis revenu dans les Landes pour être apaisé et avoir un environnement très calme.
Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. On va se tourner vers Marine, qui est neuropsychologue. Alors Marine, c'est Marine, on va l'attendre que d'un côté.
Oui, désolé.
Voilà, c'est pas sa faute. Donc Marine, vous êtes neuropsychologue, vous avez fait des études de neuropsychologie, ça se passe comment ?
Alors, je suis avant tout psychologue. Spécialisée en neuropsychologie.
D'accord.
On fait souvent, c'est le raccourci, un neuropsychologue pour simplifier.
Oui.
Mais oui, j'ai fait des études de psychologie spécialisées en neuropsychologie et plus précisément chez l'adulte et la personne âgée.
Oui.
Je me suis un peu plus spécialisée dans tout ce qui est épilepsie, maladie de Parkinson. C'est quelque chose qui me touche de près par mon entourage en tant qu'aidant ou en tant que compagne. Mon compagnon a déjà eu dans sa vie, dans son histoire de vie en tout cas, a dû rencontrer Parkinson. Et c'est ça m'a toujours touchée. C'est assez bouleversant, cette maladie. Et, donc, je travaille actuellement à Saint-Sevé, dans le territoire. Et mon but, c'est de pouvoir simplifier un parcours de soins pour toute personne qui présente même les débuts de Parkinson et de pouvoir les aider au mieux dans leur quotidien et éviter les errances diagnostiques. Parce qu'il y en a pas mal.
Ben oui, c'est ça. Il y a plein de maladies comme ça. Il y a pas mal d'errances médicales et c'est préjudiciable aux patients. Et puis, en plus, ça leur fait perdre du temps, ce qui, des fois, ce n'est pas une bonne chose.
Puis, il y a une grande souffrance psychologique qu'il y a derrière, qu'on a tendance un peu à oublier parfois.
Oui,
et j'ai rejoint donc France Parkinson il y a à peu près 4 mois. Oui, 4 mois à peu près. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice autant que je peux.
D'accord, très bien, merci beaucoup. On va parler à Hirondina maintenant, qui représente l'association Parkinson, France Parkinson Land.
Oui, bonjour. Alors, je suis parkinsonienne moi-même. J'ai été détectée à l'âge de 55 ans, le jour de mon anniversaire, donc c'était un super cadeau. Et si je suis là aujourd'hui, c'est en tant que déléguée de France Parkinson, parce qu'on l'a créée depuis 3 ans maintenant, c'est grâce à la faute du neurologue qui m'a annoncé ça comme si j'avais une grippe.
Oui, d'accord.
Donc voilà, j'en ai beaucoup souffert parce que je ne connaissais pas du tout la maladie. Pour moi, c'était pour des personnes âgées, pas pour quelqu'un qui avait 55 ans.
Oui.
Et voilà, c'est pour ça que, en venant dans les Landes, il n'y avait pas de comité à cette époque-là. Donc, avec d'autres personnes, on a créé le comité. Alors, le comité Parkinson-Landes, on dépend de Paris, parce que l'association est quand même sur le siège et toutes les personnes qui prennent des décisions sont sur Paris. Et sur chaque département, c'est un comité différent. Donc nous sommes là pour aider du mieux qu'on peut, mais aider les malades, aussi alerter les pouvoirs publics, parce que cette maladie, beaucoup de gens la vivent, moi je l'ai vécue comme presque une maladie honteuse, parce qu'on ne la connaissait pas. On associe un parkinsonien au tremblement, alors qu'il y a trois parkinsoniens sur 5 qui ne tremblent pas. Et voilà, donc nous aidons de notre mieux à les personnes à vivre avec. Déjà, ne serait-ce que par... on se sent moins seul de parler de sa maladie. Et puis, en organisant des événements de sport. Parce que je n'ai pas l'habitude de dire que le deuxième traitement, le deuxième médicament, c'est le sport, c'est l'activité physique et c'est le lien social.
Oui, alors ça, c'est vrai. Alors, pour toutes les maladies, tous les problèmes de santé générale et tout, même de manière purement préventive, parce que je reçois suffisamment d'associations ici qui sont en lien avec une problématique médicale, que ce soit même le cancer, etc. Il y a vraiment le médicament universel le moins cher, qui même des fois peut être prescrit par un médecin.
Oui, il y a le sport santé qui existe, qui est très important.
Voilà, c'est ça.
Peu de personnes le connaissent et même les neurologues ne pensent pas toujours à le prescrire. Donc, pensez-y, vous allez voir votre neurologue, dites, il y a sport santé, je voudrais une ordonnance, s'il vous plaît.
Alors demain, on reçoit une association qui fait du sport de combat, de self-défense, etc. et qui s'est mis à faire justement le sport santé qu'on peut prescrire. Justement, ça va être le sujet de l'émission, on va parler de ça.
Nous avons fait une initiation au sport de self-défense avec peut-être cette association, mais nous avons organisé ça.
D'accord. C'est quoi le nom de votre association?
Elle est à Tartas, mais je me souviens plus.
Non, ils sont de Dax. C'est High Density. On en reparlera. Okay. Très bien. Bon, voilà. C'était une introduction intéressante. Alors, on va commencer évidemment par on va se tourner vers Marine avant de parce qu'on est en train de parler de quelque chose. Parce que voilà, Parkinson. On va pas arrêter de le dire, mais du coup, qu'on sache de quoi on parle. Hein, comme a dit Hirondina, les tremblements, ben non, il n'y a pas que ça. C'est ce qui vient à la première pensée tout de suite, on pense à ça, mais c'est loin d'être la première chose.
On pense souvent au Parkinson, effectivement, je rejoins, on a l'impression que c'est que les personnes âgées qui sont atteintes, qui ne font que trembler, qui ne savent plus parler, on va grossir le trait, mais qui bavent un petit peu, qui sont vraiment, on a une image très négative.
La caricature un peu,
c'est vraiment ça.
Oui.
Alors que ça touche de plus en plus les jeunes. On est dans une région où effectivement les facteurs environnementaux sont assez à présent. Donc on a beaucoup parlé ces dernières années de tout ce qui est pesticides et métaux lourds. C'est un impact. Mais effectivement, le Parkinson, ce n'est pas que des tremblements. C'est un aspect moteur. Tout le moteur peut être touché, comme pour certaines personnes, très peu. Mais effectivement, on va avoir quelques tremblements. Au début, c'est très léger. C'est un membre, effectivement, c'est spasme de bras qui bouge un peu tout seul. On se pose la question de ce que c'est. Ça peut être un léger balancement aussi. En plus, généralement, c'est pas tout le corps.
Oui, ouais,
pendant
c'est
trois
ça.
ans, c'est vraiment la partie, ce qu'on appelle unilatérale, c'est que d'un côté. Et après, au bout des trois ans, effectivement, il y a du bilat. C'est un peu des deux côtés, même s'il y a toujours un côté qui prédomine, mais ça peut être franchement tête, des difficultés à écrire, ce qu'on appelle la micrographie. D'un coup, on a des écritures toutes petites, toutes restreintes. On peut avoir aussi la perte d'odorat. Dans tout ce qui est fonctionnel aussi, on a la constipation qui arrive même avant les premiers symptômes moteurs.
Ouais,
donc il y a vraiment d'autres choses. On a des troubles de l'humeur aussi, il y a beaucoup de dépression qui apparaissent aussi avant les premiers signes cliniques. Les tremblements, alors c'est pas parce qu'on a une dépression qu'on va avoir un parkinsonien, un parkinson, on peut se l'enlever de la tête, mais c'est assez variable, il y a vraiment plein de troubles à côté, et comme on durcit l'image toujours, on a l'impression qu'effectivement ces personnes sont plus capables de réfléchir, de penser, de mémoriser, alors que tout ça, c'est pas le cas en fait, tout ce qui est aspect cognitif, mémoire, ça arrive, si ça doit arriver, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça arrive mais bien tardivement dans la maladie. Ça va être... alors, je pense qu'ils seront mieux à nous dire nos Parkinson aujourd'hui, mais je sais que de ce que j'ai eu beaucoup de retours, c'est en tout cas être prisonnier de son propre corps. Ne plus pouvoir gérer son corps. Son corps ne s'appartient plus. Ce n'est pas qu'un tremblement. C'est lutter. C'est une lutte acharnée constamment contre tout. Contre les symptômes de l'humeur, contre les tremblements, contre l'envie de ne plus rien faire, d'abandonner. Et ça, c'est... c'est assez dur en fait pour le coup.
D'accord, très bien. On va faire une première pause. On va essayer de régler un petit peu les micros aussi. Et puis on va discuter avec nos invités Valérie et Patrice parce que sont les premiers concernés. On peut nous dire un petit peu ce qui se passe à tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors on a écouté évidemment la bande originale de Retour vers le futur. Bon, vous êtes nombreux à savoir que Michael J. Fox, c'est un comédien très célèbre. Effectivement, il a été touché assez jeune d'ailleurs. Lui, il fait partie de ceux qui ont été touchés relativement jeunes. Hein. Et ça a un peu c'est un peu l'empêcher de continuer sa carrière, hein, parce que voilà. D'ailleurs, c'est vrai que des fois, des articles, il en parlait lui-même. On le voyait des fois, comment dire, il remuait beaucoup. C'est une manière aussi de contourner le problème du tremblement involontaire. Hein. C'est une stratégie, on va dire. Hein, quand on cherche un mot, on le trouve pas, ben on bascule sur un autre. C'est un peu une stratégie de contournement. Voilà, ben on va s'intéresser à nos invités, Valérie et Patrice. Alors voilà, donc on a parlé de ces symptômes. Bon, on a bien compris, les tremblements, ça fait partie de l'image qu'on a tous dans la tête, mais il y en a des tas d'autres. Alors, qu'est-ce que vous ressentez au quotidien? Qu'est-ce qui est difficile ou impossible dorénavant?
Alors, concernant, donc pour moi, tous les jours, le problème c'est la fatigue. Énormément la fatigue, car je suis obligé de faire une sieste le matin et une sieste l'après-midi. Car sinon, je ne tiens pas la journée. Et en plus, tous les mouvements que je fais à la maison, que ce soit pour le ménage ou le repassage ou la cuisine, c'est assez compliqué, c'est tout au ralenti. Je peux repasser quoi, 3 pantalons, 2 t-shirts, je ne peux pas aller plus loin, je suis déjà fatigué et j'ai des douleurs. Donc c'est quand même assez compliqué, mais bon, on est obligé de faire avec. Et puis ensuite, bon, comme les nuits sont perturbées aussi, donc je ne dors pas très bien, donc ça me rajoute encore plus de la fatigue.
Et oui.
Donc en fait, j'ai tout le temps une tête de fatigué, parce que la nuit sont perturbées, nous vivons plus ou moins nos rêves. Donc c'est assez mouvementé.
Oui, ça c'est un détail que j'ignorais justement, cet aspect-là.
Il y a un autre, c'est surtout pour certains, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais me concernant, moi cette maladie, elle est énergivore. J'ai perdu entre 10 et 12 kilos, donc on est obligé de manger des protéines en plus de la nourriture classique pour se maintenir. Et puis pour essayer aussi de garder quelques forces parce qu'on s'affaiblit aussi.
D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'elle peut nous raconter Valérie à ce sujet? Comment ça se passe au quotidien?
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Le plus difficile, c'est le côté énergivore de toutes les activités du quotidien, de tous les gestes que l'on fait normalement de façon très automatique et naturelle. C'est un peu comme si mon cerveau réfléchissait. C'est-à-dire que je suis en train de faire la vaisselle et puis à un moment mon bras se bloque, je ne peux plus laver mon assiette et mon cerveau est en train de travailler pour me proposer une autre solution. À chaque fois que je fais un geste, même quelquefois dans la marche, je suis obligée d'être extrêmement concentrée sur les mouvements de mes jambes et de mes pieds pour être sûre de ne pas tomber. Donc je crois que le grand changement, il est là. Il est dans le fait que tous les mouvements que l'on fait normalement de façon très automatique et naturelle demandent une réflexion. Donc un effort, donc c'est énergivore et c'est très fatigant.
Donc c'est épuisant tout ça, forcément, oui.
Et c'est vrai que les symptômes sont tellement nombreux et larges. Il y a effectivement, on parlait de salivation tout à l'heure, de l'image que l'on a des parkinsoniens âgés qui ont de la salive qui sort de la bouche. La sursalivation, elle existe. Quand on est jeune et qu'on a une vie sociale et une vie professionnelle à développer, c'est toujours extrêmement gênant. C'est gênant de trembler, c'est gênant d'avoir des secousses, c'est gênant d'avoir des mouvements involontaires, c'est gênant d'être ralenti. Quelquefois, moi, j'ai l'impression d'être un paresseux, tellement je suis lente. Donc, quand on est à la caisse du supermarché, on est jeune, donc les gens ont l'impression qu'on est en bonne santé, puis on est ralenti pour tous les mouvements, pour tous les gestes, pour sortir sa carte bleue de son espace de rangement. Enfin, tout est compliqué à gérer parce que non seulement on a effectivement les symptômes, mais en plus c'est pas visible forcément. Donc on a le regard des autres, en fait, les attentes de la société face à une personne qui a 50 ans, quelquefois c'est 35 ans, quelquefois c'est 40 ans, et on n'est plus en mesure d'y répondre comme avant, en fait.
Oui, c'est le syndrome du handicap invisible, hein, voilà.
Ouais.
C'est vrai que, alors il y a une nouvelle mode là, on en parle, c'est de porter une sorte de collier avec un motif là de fleurs jaunes sur fond vert qui serait le symbole universel du handicap invisible.
Ah, je ne connais pas.
Ouais, j'ai vu ça sur internet il y a pas longtemps. On a discuté aussi, on a reçu on a parlé d'autisme land, etc. Donc voilà, c'est aussi pareil, l'autisme c'est une chose qui se voit pas trop, hein. Effectivement, on a des attentes quand on rencontre quelqu'un, l'interaction sociale avec quelqu'un, il doit être entre guillemets normal, donc il doit réagir comme ça à ça, la politesse. Absolument. Les mouvements, il doit se dépêcher, enfin voilà. Et quand on peut pas, c'est pas que quand on veut pas, on peut pas, les gens ils le prennent mal, ils disent oh mais celui-là voilà, et on doit se sentir du coup ostracisé d'une manière tout à fait injuste.
C'est-à-dire que déjà soit avec soi c'est compliqué, parce que tout d'un coup effectivement on parlait de deuil pendant la pause, mais on doit faire le deuil de ce qu'on était au fur et à mesure que les symptômes apparaissent, des capacités qu'on a plus, etc. On a notre position aussi dans notre famille, dans tout ce qu'on n'est plus en mesure de faire, la perte d'autonomie, le fait qu'on est obligé de demander du soutien. Donc il y a nous avec nous-mêmes, avec la maladie, et puis il y a les attentes et les regards extérieurs.
Oui, ça je comprends très bien. Déjà que, comment dire, une personne qui n'a pas de maladie particulière, elle fait de temps en temps un deuil de quelque chose, parce qu'en vieillissant, on passe son temps à faire des deuils au sens propre et au sens figuré, malheureusement. Mais c'est vrai que vous êtes passé par quelque chose qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus rapide. Alors, je me pose une question, justement, sur cette possibilité de mobilité, etc. Est-ce que vous avez la possibilité ou le droit de conduire une voiture? Est-ce qu'il y a une législation par rapport à ça? Je l'ignore.
Depuis, je crois que c'est 2022. 2022, la maladie de Parkinson a été ajoutée à une loi. Alors, c'est un peu ambigu, je dois vous dire, parce que j'ai mis du temps et j'ai eu du mal à comprendre le texte.
D'accord.
Mais en gros, elle a rejoint une liste de maladies invalidantes en termes de conduite.
Oui.
Qui nous demande de passer devant un médecin expert pour valider notre possibilité de conduire. Et on a un nouveau permis de conduire qui nous est attribué pour un nombre d'années déterminé par le médecin expert.
D'accord.
Qui peut aller d'un an à cinq ans. Et après cette période, on doit repasser devant le médecin pour une nouvelle période de conduite.
Ouais. C'est un petit peu comme l'épilepsie. Épilepsie non traitée, on n'est pas cessé de conduire. Bon, ça se comprend aussi, parce que c'est vrai que en un instant, pas. Il n'y a plus personne, et donc là, problématique. Bon, on va faire une deuxième pause, on va écouter le flash info local cette fois-ci, puis un petit peu de musique, on se retrouve tout de suite après ça. Nous voilà de retour avec nos invités. Bon, on a écouté AA, que vous connaissez tous ici sur cette radio, on le passe souvent. Lina Rastatt, on le passe un peu moins souvent. Ben voilà, ce sont des personnes qui, eux aussi, sont ou ont été atteintes de la maladie de Parkinson. Voilà, on ne le sait pas forcément. C'est que le chanteur de AA, elle a annoncé il y a un an, et c'est vrai que ça fait partie de la musique qu'on passe nous ici. Voilà, donc c'était voilà, pour un petit clin d'œil aussi pour les habitués de nos sons. Oui, donc alors on parlait un petit peu hors antenne de la partie un peu technique, hein, on va essayer de pas être trop technique, hein, mais c'est quand même intéressant de dire certaines choses, notamment voilà, les causes, les raisons connues en tout cas, ou suspectées de l'existence de cette maladie. Dedans, il y a quand même des choses qu'on pourrait peut-être éviter. Je crois qu'il y a des... notamment les pesticides, ça c'est quand même, il faut qu'on en parle.
C'est vrai qu'il y a, il y a un lien qui a été fait, mais depuis quelques années, on en parle du lien entre pesticides, métaux lourds, notamment chez les agriculteurs aussi, qui ont un lien, qui auraient un lien avec la maladie de Parkinson. Ce qu'on sait, c'est que les facteurs environnementaux chez le Parkinson sont très importants. C'est ce qui permet aussi de lancer un début de diagnostic, qui permet de creuser cette piste-là. Mais il y a un lien direct dans tout ça. Après, je ne connais pas le mécanisme neurobiologique exact, mais effectivement, l'une des origines viennent de l'environnement. Après, il y a des parties un peu génétiques, mais ça, c'est très peu de patients parkinsoniens. Ouais, hein, ce qu'on disait, il y a à peu près 20%, c'est ça, même encore moins. Mais la plupart du temps, oui, c'est lié, en tout cas, une grande majorité, surtout chez nous, avec les agriculteurs, que je reçois beaucoup d'agriculteurs en tout cas, et il y a eu beaucoup de liens avec les pesticides, effectivement.
Ouais, bon, c'est intéressant d'en parler, parce qu'il y a des discours, des fois, les hommes politiques, il y a des votes qui sont faits, des lois, et des fois, on est un petit peu étonné des choix qui sont faits en amont. Si on a la preuve que ça, ça fait ça, ça semble tellement évident qu'il faut prendre dire, ben voilà, il faut l'interdire, ben non, ça a l'air compliqué. C'est là aussi que l'association prend tout son sens, elle sert aussi à toucher, ben voilà, comme nous aujourd'hui les auditeurs, hein, donc le grand public, mais aussi à faire un peu pression et information sur les politiques qui, eux, vont prendre les décisions qui vont faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de malades. Donc ça, c'est important dans le fonctionnement de l'association.
Oui, tout à fait.
Irandina.
Oui. Oui, c'est important. Ça fait partie aussi de nos objectifs, d'alerter les pouvoirs publics. Oui, on s'est battu pour ne plus avoir, pour interdire certains pesticides. Bon, comme vous l'avez si bien dit, les votes ne sont pas toujours ce qu'on espérait. Enfin, après, il y a sûrement d'autres enjeux, mais voilà, ce qui est important de savoir aujourd'hui, avec tous ces hommes politiques qui nous font des lois, c'est que dans moins de 5 ans, la population, pardon, moins de, dans 2050, excusez-moi, je suis perturbée, la population parkinsonienne aura triplé.
Oui.
Il y a un Parkinsonien qui est détecté, enfin qui est diagnostiqué toutes les 20 minutes. Et pour vous donner une idée, il y a une personne sur 50 qui sera un jour ou l'autre, qui aura la maladie de Parkinson. Mais donc oui. c'est important. Donc l'association, bien sûr, c'est pour alerter les pouvoirs publics, mais on est là aussi pour aider les personnes du mieux qu'on peut, ne serait-ce que les écouter dans leur désarroi, dans leur errance médicale aussi, oui, parce que souvent les neurologues, les médecins, ils vous disent que vous avez Parkinson, mais après, plus rien. Donc il faut que les personnes se renseignent par elles-mêmes, et quelquefois c'est difficile quand on est... dans des endroits à la campagne, on n'a pas déjà la possibilité de se déplacer. Vous avez parlé du permis de conduire, c'est une chose. Mais dans un département aussi grand, aussi vaste que les Landes, se déplacer, c'est pas évident. Parce que on est malade, on ne conduit plus ou très peu. Et ensuite, y a les aidants. Mais les aidants, c'est compliqué pour eux aussi. Donc c'est le but de notre association.
Très bien, merci beaucoup. On va parler à Patrice et Valérie aussi. Alors, concrètement, vous êtes diagnostiqué, on en parlait un petit peu des inconvénients que vous subissez. Alors, est-ce qu'il y a, entre guillemets, même si je sais que pour l'instant ça ne se guérit pas, est-ce que vous prenez des traitements ou est-ce qu'il y a des choses à faire, de manière chimique et de manière, je ne sais pas, kiné, etc. Votre quotidien, c'est quoi au niveau de la maladie?
Me concernant, donc du coup, moi j'ai un traitement tous les jours. Pour l'instant, dans le futur, je souhaite, me faire poser des électrodes.
Oui.
Après, ça va prendre du temps, ça je le sais. Je ne sais pas si je serai compatible, parce que malheureusement, il y en a très peu en France.
Ouais.
Je crois qu'en moyenne, il y a 300 opérations dans toute la France, et tout le monde n'est pas compatible.
D'accord.
C'est quand même conseillé de le faire assez jeune quand on peut, car malheureusement, avec l'âge, on a des risques de d'hématome.
Oui.
Donc.
Oui, c'est les électrodes qu'on met directement à certaines parties du cerveau.
Pour stimuler.
C'est vrai que des fois, moi j'en ai vu sur internet des vidéos, on voit que des gens ont des tremblements et puis quand on active le dispositif, ils disparaissent.
Voilà, ce qui est pas mal. Ils peuvent marcher pratiquement normalement.
Oui, oui, oui.
Ça enlève aussi la lenteur, si je ne me trompe pas.
Oui. Bon, c'est une chirurgie spécifiquement lourde et intrusive. Hein. C'est voilà, là, c'est.
Exactement.
Parce qu'on touche un petit peu. Alors, c'est le cerveau le coupable dans l'histoire. Hein. On n'a pas trop parlé du dispositif, hein, de la dopamine, etc. Mais c'est vraiment le cerveau qui. Il y a un problème dans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a tellement de conséquences qui sont des fois un petit peu surprenantes. Hein. Voilà, on en a parlé tout à l'heure de ce que vous subissiez et pas que les tremblements. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un peu délicat dès qu'on touche au cerveau. Hein. C'est. On joue à l'apprenti sorcier depuis des années. Bon, on fait beaucoup de progrès. Hein. Je pense que Marie ne nous dira pas le contraire. Mais alors, c'est quoi la perspective? C'est quoi les avancées médicales, scientifiques, techniques? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'état actuel de la science par rapport à cette maladie?
De ce que j'en sais, ce que vous avez comme traitement, c'est jouer sur la dopamine, vu qu'il y a un manque de dopamine. Ça se meurt, en tout cas, dans le cerveau. Il y a d'autres choses, mais il peut y avoir la sérotonine pour la dépression, par exemple. Mmh. Mais effectivement, c'est des traitements, la L-Dopa, par exemple, tout ce qui est à base de dopamine. Mmh. On le fait assez jeune et on sait que... Il y a une période, ce qu'on appelle lune de miel, quand on instaure un traitement, c'est entre 2 et 5 ans, parce qu'il y a encore assez de neurones, encore assez de neurotransmetteurs dopaminergiques, et qui permet, quand on va mettre en place la L-Dopa, par exemple, d'apporter ce qui manquait en dopamine. Sauf que plus la maladie avance, plus les neurones et les neurotransmetteurs se meurent, et donc on aura beau augmenter les dosages, on quitte la phase lune de miel. Effectivement, c'est là où il y a la cascade de difficultés qui arrive derrière, au niveau des blocages, le fait de ne plus pouvoir marcher. Parce qu'on dit ne plus pouvoir marcher, mais parfois c'est vraiment un blocage. C'est pas juste avoir les pieds collés au sol, c'est ne pas pouvoir initier le mouvement.
Mais oui, c'est la transmission quoi, qui fonctionne plus.
Et puis il faut vous dire que c'est pas juste une marche, ça peut être juste un sol qui change de texture, qui change de couleur, qui empêche de pouvoir continuer à marcher. Donc pour l'instant, il y a pas mal de choses. Donc il y a la L-Dopa. Alors c'est des traitements à heure fixe qu'il faut éviter de décaler, parce que dans ces cas-là, tout le traitement se décale. C'est pas miraculeux non plus. Alors ça marche très bien dans la lune de miel, on sent qu'il y a du mieux, mais il y a des phases de on et de off. Ça c'est après la lune de miel, justement, c'est la partie un peu moins sympa.
On dirait qu'on parle du mariage aussi.
C'est un peu ça.
C'est ça,
c'est à vie. Il n'y a, pas possibilité de divorce.
Pour le meilleur et pour le pire, malheureusement.
Mais effectivement, on va vraiment. La lune de miel, c'est vraiment de 5 ans. Et quand on commence à avoir des symptômes de plus en plus larges, ou en tout cas des effets moins forts au niveau du traitement, ou alors ce qu'on appelle donc, la phase de off, c'est quand il n'y a plus de traitement. C'est là où on a encore plus de blocages, où les douleurs sont là, où il y a la rigidité. Et à la phase, ce qu'on appelle on, c'est là où le traitement est à son plein potentiel. Sauf que quand on parle de ça, on a l'impression que c'est miraculeux, mais attention, dans la phase de on, il y a justement les effets de trop dopamine, et on va avoir des mouvements involontaires qui vont arriver. Généralement, on a l'impression que la personne danse sur place. Mais c'est les effets up du traitement jusqu'à ce que ça se restabilise, mais ça peut aller vite. Mais effectivement, entre un changement de traitement, un changement de dosage, ou parce que le dosage ne fait plus assez effet, donc il y a un moment de blocage plus important. Pour l'instant, on en est là à essayer de réguler un peu tout ça. Je sais qu'aussi, il y a les pompes apomorphines. Alors là, par contre, je vais m'aventurer dessus parce que je ne suis pas l'experte.
D'accord.
Et qui permet une diffusion un peu plus continue. Mais c'est pareil, si ce n'est pas surveillé et que la pompe n'est plus alimentée, là, le blocage, il est total. Il faut relancer, débloquer. Et ce n'est pas juste je débloque en on-off comme un bouton. Il y a toutes les douleurs qui vont avec. Il y a tout le temps. Oui, c'est ça. Et ça prend beaucoup de temps, effectivement.
Ça prend du temps, le temps d'avoir la phase on. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut être patient.
Oui.
Voilà, parce qu'on est en fait à l'écoute du corps, hein, c'est lui qui commande en fait. Des fois on va aller plus vite, mais il nous fait rappeler que non, on est en stand-by, t'attends que je sois prêt et après on pourra faire des choses.
Ouais.
C'est ça.
Bien sûr. Bon, voilà, on va faire une dernière pause. Bon, voilà, on a parlé pas mal des problèmes physiques, mais bon, du coup, ça doit être aussi pour vous hein, Une forme de, j'allais dire, de torture. Psychologiquement, c'est difficile. C'est-à-dire que,
c'est très compliqué.
Ouais. Ouais, la maladie peut provoquer elle-même, déjà, on parlait de dépression et tout, mais bon, quand on est obligé de subir ce genre de choses, c'est pas très marrant non plus, donc ça doit pas être facile à vivre au quotidien. On va passer, on va faire une dernière pause et on se retrouve ensuite pour la conclusion de cette émission. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Et bien, c'était encore quelqu'un, encore une star atteinte de la maladie de Parkinson, c'était Ozzy Osbourne qui nous a quitté il y a pas très longtemps, une grande star, mais voilà, lui aussi, il est passé par cette case-là. Donc, on a parlé un petit peu hors antenne. Il y a aussi un peu une double peine, c'est que la reconnaissance par la société civile de la manière dont on peut aider les gens qui... Parce qu'on a bien parlé d'incapacité, des choses qu'on ne peut plus faire. Hein, voilà, on a parlé de la voiture, mais bon, rien que la voiture, c'est déjà pas mal. Hein, parce que qui dit pas de voiture, dit pas de travail. Hein, enfin, dans les Landes, c'est souvent le cas, forcément. Et c'est pas encore tout à fait au point, ça. Non, c'est un petit peu injuste.
Alors, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Il y a deux possibilités. La première, c'est que la personne découvre son diagnostic, elle est salariée en CDI. Et là, elle va trouver des solutions, peut-être d'abord d'adaptation de son poste de travail ou d'un changement de poste. Oui, oui. Et puis après, une invalidité. Pour ma part, je venais de créer mon activité. Donc, oui. J'étais demandeur d'emploi.
Ouais, pas bon, ça.
Créatrice d'activité. Alors, vous vous doutez qu'en créer son auto-entreprise, il faut du temps pour la lancer. Quand on a la maladie qui nous tombe sur le coin du nez, alors qu'on vient de la lancer, c'est un peu compliqué de la développer.
Ben oui.
Donc, moi, personnellement, je me suis tournée de nouveau vers la recherche d'emploi. Je me suis tournée vers Cap Emploi qui m'a reçue. Donc Cap Emploi, c'est un organisme en lien avec Pôle Emploi pour les personnes qui ont un handicap. Quand j'ai décrit mes symptômes et la difficulté de prévoir de quelle manière j'allais pouvoir travailler, elle m'a dit, la personne qui m'a reçue, ça va être très compliqué de trouver un employeur qui accepte de vous embaucher. Et puis de l'autre côté, il y a la MDPH qui propose une allocation adulte handicapé justement pour des profils un peu comme les miens, mais j'ai fait une demande, j'ai fait un appel et j'ai eu un rejet. Parce qu'ils considèrent que je suis en capacité de travailler, ils considèrent que je suis à moins de 50% de perte de capacité. Donc je suis dans un néant total, qui m'amène à vivre avec le RSA.
Voilà.
Voilà. Et sachant que quand on veut s'occuper de soi, quand on est malade, on a besoin de bien manger le plus sainement possible, on a besoin de faire de l'activité physique, on a besoin de vie sociale, on a besoin de se déplacer, et tout ça coûte de l'argent. Et quand on est au RSA et qu'on est malade, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a certains profils comme le mien qui sont dans un flou total, un no man's land, je sais pas comment appeler ça, mais il y a un questionnement sur dans quel état il faut être et quel type de maladie il faut développer, quel type de symptômes pour que la MDPH des Landes accepte de voir que c'est compliqué déjà le quotidien, la vie personnelle, la vie privée, mais encore plus la vie professionnelle.
Oui, c'est sûr que si en plus on se retrouve dans une situation difficile financière parce que on est malade et qu'on a besoin de moyens financiers, d'autant plus qu'on est malade, ça devient une équation impossible à résoudre, ça.
C'est ça. Oui, on ne l'a pas demandé. S'ils veulent, j'échange avec plaisir. Comme tu disais tout à l'heure, j'échange avec plaisir ma maladie contre un travail aussi pénible soit-il. Ouais.
Oui, ça je comprends bien. Oui, alors donc je vais me tourner vers Irandina. Donc là c'est le job de la sauce. Là, vraiment, c'est votre cheval de bataille de faire reconnaître tout ça.
Oui, c'est le rôle de la France Parkinson de faire connaître tout cela. Maintenant, dans certains départements, il me semble que c'est plus simple. Voilà, moi, j'étais en région parisienne, j'ai obtenu ne serait-ce que ma carte d'handicapé, voilà, sans grand problème. Alors, peut-être que dans les Landes, c'est plus compliqué, je ne sais pas.
Ouais.
Mais c'est vrai aussi que nous, on est... Comme je vous ai dit, on est une tout jeune association, comité.
Comité, oui.
Et notre rôle, c'est aussi de faire connaître cela. Et il faut qu'on trouve des bénévoles parce qu'on est, on est six actuellement, six bénévoles. Donc aussi pour siéger à la MDPH, parce que pour défendre tout cela dans le département. et défendre la cause
pour des, représenter
pour représenter fait. Exactement mmh. Donc actuellement on le fait pas parce que encore une fois on n'a pas assez de bénévoles et voilà, c'est un appel.
Ouais, mais il faut le faire, vous êtes là pour ça
aussi. C'est un appel.
Enfin, oui, bien sûr.
C'est important parce que voilà, on est quand même dans un département où qui est très vaste, comme je vous l'ai dit. On a du mal à se déplacer. Oui. Donc c'est important.
Alors, on va parler aussi un petit peu de votre actualité, parce que vous avez bien entendu, comme toutes les associations, ont besoin de bénévoles et de moyens financiers pour la faire vivre. Vous avez donc des petites actualités, vous organisez des fois des événements qui permettent aussi de rassembler des fonds et de vous faire connaître la problématique que vous défendez.
Oui, alors, nous avons de la chance qu'il y a quand même beaucoup d'autres associations, des théâtres, de self-défense d'ailleurs. Des clubs de bridge, enfin j'en passe et d'autres et qui nous aident. C'est aujourd'hui ce qu'il nous faut, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui assistent à nos événements. On a organisé des journées clinées à trois reprises, deux à Rion-des-Landes et un à Biscarrosse, parce que nous avons plusieurs points de rencontre, un qui est à Biscarrosse, un autre à Rion-des-Landes, Mont-de-Marsan et Saint-Paul-les-Dax. Donc, nous avons des points de rencontre maintenant. Il faut que les personnes aient la possibilité de se déplacer. Et on va organiser le 23 mai à Saint-Sevé. Marine nous organise une conférence sur la maladie. Le 27 mai, nous organisons un pique-nique. Alors, tout le monde est bienvenu. Voilà, un pique-nique au lac d'Arzujan.
Oui, un bel endroit.
Et le 18 juin, nous organisons une conférence avec des neurologues et d'autres participants à Benke. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus.
Très bien. Moi, je mettrai un lien, bien sûr, vers votre site internet et réseaux sociaux avec le podcast pour que les auditeurs puissent aller vers vous. Et il y aura forcément des gens qui vont, soit des valides, soit des malades, qui vont se tourner vers vous, vont comprendre que c'est vers vous qu'il faut se tourner pour être aidé et pour aider les autres aussi, parce que c'est ce que font la plupart des associations. On va mettre fin à cette émission. Je vous remercie d'être venu et d'avoir parlé
Merci.
Voilà, c'est pas forcément évident de se livrer non plus. Je m'adresse plus particulièrement à nos deux invités qui sont touchés par cette maladie. C'est pas toujours évident de parler de soi et des problèmes qu'on rencontre et la difficulté de la vie. Voilà, Et voilà, je vous remercie pour votre témoignage. En tout cas, c'est précieux. C'est précieux pour nous et pour les auditeurs surtout. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.